responsable d'une formation architecture et patrimoine. Bonsoir.
Bonsoir.
Armel Villepelet, secrétaire général de la Fédération nationale des guides conférenciers. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez l'habitude évidemment d'emmener les touristes visiter la cathédrale. Et puis Florence Berthoux va nous rejoindre, maire Les Républicains du 5e arrondissement, l'arrondissement où nous nous trouvons actuellement. Jean-Paul Midan, vous avez écouté comme moi l'intervention inattendue d'Emmanuel Macron. Le président dit on fera une cathédrale plus belle encore que ce qu'elle a été. D'ici 5 ans, nous le pouvons. Quelle est votre réaction ?
Je crois que si on le veut, on le peut, oui, bien sûr. Mais je crois qu'il a dit aussi après qu'il faut prendre du temps. Il faut aussi un peu prendre le temps de la réflexion.
Ne pas tomber dans le piège de la hâte.
Voilà. Donc, c'est tout la difficulté en la matière. Mais je pense qu'on a effectivement en fait des promesses de beaucoup d'argent pour l'instant. Et quand on a beaucoup d'argent, on va très vite.
C'est possible, en 5 ans, de rebâtir, reconstruire ou rénover, on en parle un peu plus tard, choisir le bon terme, la cathédrale pour qu'elle soit à nouveau visitable, utilisable, où les messes puissent encore se dérouler?
Écoutez, moi je ne sais pas trop dans quel état elle est vraiment, hein. Donc ça reste toujours en suspens, mais je pense qu'il est possible effectivement de l'ouvrir au public assez rapidement, en tout cas. Et je pense qu'il est possible de penser qu'il y a des messes qui puissent s'y tenir assez rapidement. Je crois que d'ailleurs, c'est la volonté de tous.
Et lorsque le président parle de 5 ans, est-ce que c'est finalement pas rassurant sur l'étendue des dégâts? Il doit bien en savoir plus que nous.
Peut-être, mais je pense qu'effectivement, pour vous donner une idée, quand la cathédrale de Reims avait été détruite après la guerre, on a inauguré la charpente nouvelle et sa toiture en 1928. Donc on a quand même mis 10 ans. Mais c'est pas si longtemps, 10 ans. Donc je pense que peut-être on peut réduire. Mmh. Je sais pas si on y arrivera en 5 ans, mais je pense que les Français aimeraient que ça se fasse très vite, c'est sûr.
Laura Martel, vous êtes reporter, vous avez passé la journée aux alentours de la cathédrale. Le président n'a pas évoqué la souscription auquel il avait fait allusion hier soir. Mais il a parlé beaucoup de dons. Est-ce que parmi les gens, les badauds que vous avez pu rencontrer aujourd'hui, les gens étaient prêts à donner de l'argent pour la cathédrale Notre-Dame?
Bah écoutez, ça a évidemment pas valeur de sondage, mais j'ai effectivement posé la question à une dizaine de personnes. Et dans une quasi-unanimité, eh bien, ils se disent effectivement prêts à contribuer à la reconstruction. Alors chacun a sa raison, hein. Certains sont chrétiens, d'autres sont attachés au patrimoine et à l'histoire que Notre-Dame incarne, bien sûr. Certains pensent au passé, ils disent il faut donner, penser à toutes ces vies qui ont été perdues durant la construction de la cathédrale. D'autres, au contraire, évoquent l'avenir. Ils ne conçoivent pas, finalement, que leurs enfants ne connaissent qu'une Notre-Dame meurtrie. Et alors, même un touriste espagnol, lui, n'a pas hésité. Il me disait, évidemment, je donnerai parce que Notre-Dame appartient tout simplement au patrimoine de toute l'humanité. Un restaurateur nous a d'ailleurs confié avoir reçu de nombreux messages de l'étranger, des étrangers qui promettaient non seulement de revenir à Notre-Dame, mais aussi de donner. Alors, une voix dissonante, toutefois, Marie, un couple qui s'interroge un peu sur l'afflux très rapide de dons, des dons de plusieurs millions d'euros pour un monument. Un monument certes très beau, certes qui appartient à notre patrimoine, mais il me disait, bah, quand on voit la misère humaine en France ou ailleurs et qu'on voit qu'elle ne mobilise pas,
ne perdez pas votre voix, Laura.
Eh bien, pour un bâtiment, nous, on préfère donner à des humains.
Alors, on va passer la parole à Armel Villepelet. Vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des guides conférenciers. Vous avez l'habitude, de faire visiter Paris aux touristes, et notamment Notre-Dame. C'est vraiment un passage obligé. Les gens vous réclament cette visite.
Absolument. La visite de Notre-Dame pour ce qu'on appelle un primo-visiteur, quelqu'un qui vient pour la première fois à Paris, c'est un lieu absolument incontournable. C'est le cœur de la capitale, le cœur un peu aussi de l'histoire de France. Il y a des moments importants qui s'y sont déroulés et surtout beaucoup parmi eux connaissent Esmeralda et Quasimodo. Enfin, ça a vraiment une résonance pour eux. Je parlais tout à l'heure avec une collègue qui a de la clientèle des visiteurs chinois. En Chine, on connaît Quasimodo et Esmeralda et bien sûr, la visite de Notre-Dame est l'occasion de découvrir aussi un lieu imprégné d'histoire et de pouvoir et un lieu bien sûr imprégné de religion. Donc c'est une découverte aussi un peu de la religion catholique et de son esprit.
On entendait Emmanuel Macron parler donc de 5 ans sans tomber dans le piège de la hâte. On est qu'au lendemain de cet incendie, Armelle Villepelet, mais est-ce que vous êtes pressé de pouvoir reprendre vos visites?
Bien évidemment. Nous savons que dans un premier temps, ça ne sera pas possible. Nous aurons peut-être accès au parvis parce que voilà, cette merveilleuse scénographie est encore heureusement en place. Entre-temps, nous allons devoir sûrement modifier nos itinéraires, ce qui ne nous empêchera pas de venir sur l'île de la Cité, qui a toute une histoire. Mais bien évidemment, nous sommes pressés de pouvoir de nouveau effectuer des visites en Notre-Dame.
Le parvis, Laura Martel, qui est toujours inaccessible, mais qui n'empêche pas les passants, les curieux, les touristes d'affluer. C'est très impressionnant, on a du mal même à avancer sur les trottoirs.
Oui, justement, depuis ce matin, c'est vraiment un flux incessant, des Parisiens comme des touristes. Beaucoup sont venus voir les dégâts de leurs propres yeux, prendre des photos, d'autres se recueillent en silence. L'émotion est là, hein, parfois jusqu'aux larmes, les larmes de cette paroissienne pour qui c'était un phare de la chrétienté qui s'était effondré, les larmes d'une professeure de lettres qui me citait évidemment Hugo, Dumas et qui pleurait à la pensée de ce patrimoine perdu. Mais la façade est restée debout, me disait-elle. Il nous reste au moins 7 silhouettes. Les pompiers aussi qui restaient là étaient toujours sur le coup d'une nuit particulièrement éprouvante et faisaient témoigner de la dévastation à l'intérieur. Et puis vous le disiez, Marie, c'est aussi la pagaille, puisque le périmètre de sécurité est encore en place. Il faut circuler entre les innombrables caméras des télés du monde entier qui sont là. Les résidents, ceux qui travaillent sur l'île de la Cité, doivent montrer des justificatifs pour passer ce périmètre. Des justificatifs qui n'ont pas forcément. Certains ont été évacués cette nuit. Et voilà, beaucoup de protestations, parfois quelques esclandes, notamment comme une femme qui voulait aller voir son médecin sur rendez-vous et n'a pas pu passer et a fait éclater sa frustration.
On ne les entend plus, mais tout à l'heure c'était vraiment un orchestre de sifflets. Les policiers ont du mal à contenir la foule et empêcher finalement les passants de marcher sur la rue pour laisser passer le flux des automobiles. Je vous propose d'écouter maintenant Cathy Brébant, c'est l'une de ces visiteuses, de ces curieuses. Elle était de passage à Paris hier. Cette Bordelaise a tenu à faire un détour par l'île de la Cité avant de prendre son train. On l'écoute.
Moi, j'étais étudiante à la Sorbonne, donc je reviens dans mon quartier latin. Ça fait partie du paysage et je viens un petit peu me recueillir comme une personne qui nous est tendre et chère. Je pense que je vais essayer de témoigner pour mes amis à Bordeaux de ce que je vois. C'est vrai que le fait qu'il y ait les deux tours, la Galerie des Rois, qu'on ait encore la structure de devant, ça veut dire que tout n'est pas perdu en pierre. La silhouette nous reste. Moi, c'est comme la perte d'un être cher. C'est très triste.
Jean-Paul Midan, vous êtes architecte. Lorsque vous regardez, alors là, juste derrière vous, Notre-Dame, avec vos yeux d'architecte, qu'est-ce que vous dites de l'état de l'édifice? Effectivement, comme le disait cette dame, elle est là encore, la silhouette et la structure.
Oui, c'est très bien comme ça. Je crois que les pompiers ont fait en sorte de préserver la façade principale parce que c'était l'icône de Notre-Dame. La flèche est tombée, c'est vrai, mais la flèche, on la voyait peut-être moins bien. On la voyait bien, j'ai écouté Jack Lang hier, qui du haut de l'Institut du Monde Arabe était aux premières loges.
Oui, l'ancien ministre de la Culture.
Voilà, mais c'est vrai que peut-être les touristes avaient plus de mal à la voir. Ce qu'on voit, c'est d'abord la façade occidentale, et c'est rudement bien qu'elle soit encore là, bien sûr.
Est-ce que c'est important, justement, parler de reconstruction? Au moins la structure, cette façade, les murs latéraux, je ne suis pas spécialiste, mais est-ce que déjà le fait qu'il y ait encore cette structure en place va faciliter une certaine reconstruction?
Bien sûr, mais on ne sait pas trop dans quel état elle est, cette structure, maintenant. Parce que vous savez, il y a eu le feu, je ne sais pas jusqu'où. Il y a des traînées jaunes sur la pierre, ça veut dire que la pierre est gorgée d'eau. Donc, va falloir la sécher. Il y a des problèmes sans doute avec le mortier. Je pense que la voûte, il va falloir totalement la changer. Il va falloir regarder de très près les contreforts. Au point de vue structurel, c'est pas si simple. Il va falloir tout rediagnostiquer la structure, même si elle existe encore.
L'eau, justement, vous parliez c'est une quantité impressionnante d'eau qui a été diffusée donc sur la cathédrale hier. Ça peut être aussi une source d'inquiétude.
Je pense, mais moi-même, je suis pas rentré dans l'édifice. Je vois pas du tout l'étendue des dégâts.
Alors vous êtes un spécialiste de Viollet-le-Duc, l'un des architectes choisis donc au milieu du 19e siècle pour restaurer Notre-Dame. On lui doit donc la fameuse flèche qui s'est effondrée hier. Quelle était la spécificité des choix de Viollet-le-Duc? Est-ce qu'il s'est éloigné alors du style d'origine de la cathédrale?
Non, pas du tout. Je peux vous raconter l'histoire en quelques mots. Il avait 28 ans quand on lui a demandé un projet. Donc c'était une sorte de consultation, il a été mis en concurrence. Il était avec un de ses amis avec lequel il avait déjà restauré la Sainte-Chapelle. Donc ils avaient quelques idées. Et ils ont tenté un coup de poker, ils ont fait un énorme projet qui a duré, donc qui a été accepté, qui a commencé en 1845. La restauration a duré presque 20 ans, elle s'est terminée pour l'extérieur en 64. Ça c'est l'État qui a payé, puis ensuite c'est l'Église qui a payé pour tout le décor intérieur à partir de 64, et je crois que ça a été terminé vers 1875. Donc ça a duré très longtemps, 30 ans d'aventure déjà à l'époque de restauration.
Cette histoire pour dire que la cathédrale n'a jamais cessé d'évoluer architecturalement?
Non, bien sûr que non, et ça me faisait de la peine hier de voir son état, parce que je connais les architectes qui s'en sont occupés récemment, et je pense que c'était pour eux un déchirement aussi.
Je suis tombée sur une citation de Viollet-le-Duc, justement. Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Jean-Paul Midan, ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas forcément imaginer une reconstruction à l'identique de Notre-Dame?
Oh, alors la phrase que vous m'avez citée est très connue, mais elle est prise d'un article qui fait 60 pages et c'est les premières phrases. Donc ce serait un petit peu compliqué de rentrer dans son détail. Je pense qu'aujourd'hui, la question se pose pas beaucoup, même si on va se la poser. Ça va être un point de doctrine dans la restauration des monuments historiques. Mais je pense que le désir de tous, c'est qu'elle ait la même apparence. Alors maintenant, une toiture, on peut la refaire en différents matériaux. Je pense que là, on va discuter pour savoir comment on va la refaire. Est-ce qu'on va la faire en bois? Bon, j'entendais, vous savez, la poutraison en chêne. Viollet-le-Duc, dès l'époque, l'a restituée en chêne. Mais quelques années plus tard, il se refusait de faire des charpentes en chêne au nom déjà de l'écologie.
Ah oui.
Et la deuxième partie de son travail de restauration, par exemple pour Pierrefonds, il a commencé par restaurer deux tours avec une charpente bois, mais tout le reste est en métal. Et l'argument, c'était de dire, moi je ne peux pas déforester, ça vient de Champagne. Pour la cathédrale de Paris, c'est les meilleures chênes de Champagne qui sont tombées à l'époque. Bon, on ne se posait pas la question, mais je crois que là, on va sans doute se poser la question. Personnellement, moi je serais plutôt d'avis de ne pas le faire, mais on verra bien quelle va être quand même la force de l'opinion, mais donc je pense que ça reste en suspens, mais l'apparence restera certainement la même.
Armel Villepelé, qu'est-ce que cela vous inspire? Paris ne doit-elle pas, comme elle le fait depuis des siècles, s'adapter? J'imagine que dans les récits que vous faites aux visiteurs, ce sont des couches successives d'histoires qui se racontent à Paris.
Oui, bien sûr. Paris, c'est pas uniquement le Paris d'autrefois, c'est le Paris d'aujourd'hui. Et bien évidemment, dans nos visites, nous allons parler aussi de la cathédrale Notre-Dame, du Notre-Dame d'aujourd'hui, du Notre-Dame de maintenant, des travaux qui vont être entrepris. C'est vraiment des choses qui intéressent nos visiteurs.
Est-ce que c'est finalement une nouvelle page d'histoire qu'on est en train de vivre, qui un jour se racontera, que vous raconterez?
Absolument. Absolument, et c'est intéressant parce qu'on peut en plus la mettre en parallèle éventuellement, enfin en tout cas pour certains visiteurs, avec d'autres incendies, parce que des incendies dans les cathédrales, ça fait vraiment partie de l'histoire. Il y en a eu énormément et on a même beaucoup d'images, de tableaux entre autres, qui représentent des églises en feu au XVIe, au XVIIe siècle, etc. Donc il existe vraiment une mémoire visuelle de ce genre d'événement.
Je propose maintenant d'écouter deux touristes rencontrés ce matin devant la cathédrale. Donc une Américaine qui a tout vu de sa chambre d'hôtel et une Espagnole qui s'était rendue sur place une première fois hier, juste avant le sinistre.
Nous avons eu la chance de voir Notre-Dame dans toute sa splendeur hier après-midi, mais nous n'avons pas pu rentrer parce qu'il y avait trop de monde. Alors ce matin, on s'est dit, c'est obligé, il faut qu'on revienne voir dans quel état elle est. C'est impressionnant, c'est une tragédie ce qui s'est passé. Il ne reste quasiment rien de la partie arrière. La façade tient encore debout, mais on voit des traces de fumée.
Je suis tellement désolée pour les Parisiens et pour le monde entier. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qui a été détruit à l'intérieur. Dieu merci, j'avais déjà visité Notre-Dame. J'avais pu admirer toutes les merveilles à l'intérieur, les vitraux, les orgues. J'espère qu'il en reste encore quelque chose. On ne peut pas remplacer l'histoire.
Florence Berthoux nous a rejoint au Café Notre-Dame, donc juste en face de la cathédrale, maire Les Républicains du 5e arrondissement, celui dans lequel nous nous trouvons actuellement. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Emmanuel Macron, tout à l'heure, a parlé d'un peuple de bâtisseurs. Il veut la cathédrale Notre-Dame plus belle encore qu'elle ne l'est. Une reconstruction d'ici 5 ans. Il dit nous le pouvons, sans pour autant tomber dans le piège de la hâte, devenir meilleur que nous sommes. Voilà, c'était les mots très solennels tout à l'heure d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous attendiez un mot du président ce soir, un mot aussi solennel, alors qu'il devait se prononcer déjà hier sur tout le mouvement social que l'on vit, les gilets jaunes, le débat national? Est-ce que vous attendiez un mot du président?
Franchement, dès que l'on a vu ces flammes en haut de la flèche de Notre-Dame, on n'imaginait pas que le président de la République puisse se prononcer sur la suite du grand débat, et on imaginait qu'il allait vouloir être aux côtés des Françaises et des Français, d'ailleurs de toute la communauté, et c'est la communauté parisienne, ce sont les Français qui sont totalement bouleversés. Il affiche ce soir du volontarisme après la tristesse bien compréhensible d'hier soir. Je prends acte de ce volontarisme. Je pense qu'il faut espérer. Il faut toujours espérer, vouloir aller plus haut, plus loin, surtout quand il s'agit d'un édifice comme celui de la cathédrale, évidemment, Notre-Dame de Paris, qui a été, on ne le dit pas beaucoup, mais qui a été beaucoup remanié, notamment au 18e et au 19e siècle.
On l'évoquait, effectivement, alors, pardon, avec cette fameuse flèche qui maintenant a disparu.
Alors, il y a la flèche, évidemment, de Viollet-le-Duc qui, chacun le sait, n'avait pas fait l'unanimité à l'époque. Il y a aussi des portails qui ont été faits par Soufflot. Soufflot, c'est celui qui, dans mon arrondissement, a fait sa grande perspective, qui arrive, vous le savez, au Panthéon, et qui, d'ailleurs, a dessiné le visage de la place, celui d'ailleurs pendant de la mairie du 5e qui est de l'autre côté de Sorbonne.
C'est la discussion justement que nous avions juste avant que vous nous rejoigniez. Est-ce que la cathédrale doit changer de visage, au moins évoluer avec son temps? Est-ce que les Parisiens sont prêts à la voir sous un nouvel angle avec les techniques d'aujourd'hui, avec peut-être d'autres dessins?
Alors, il y a deux choses qui ne sont pas de même nature. Est-ce qu'on peut utiliser les évolutions technologiques pour conforter, par exemple, les ouvrants, pour sécuriser davantage la couverture? On imagine bien que oui, réduire, par exemple, le risque incendie. On a effectivement aujourd'hui des technologies qui peuvent...